Bonjour à tous. Cette semaine, j'ai donné mon témoignage parmi les aînés. On m'a invité pour partager mon témoignage de conversion. Et je parlais surtout beaucoup de mon père, parce qu'on est partis tous les deux ensemble vers ce pays, vers ce nouveau pays. Et puis, tous les deux ensemble dans une aventure extrême. Et j'ai entendu mon père pendant quoi? Pendant 2 mois. Il était juste à côté de moi. Puis, il m'a parlé, puis sermonné, comme on dit les jeunes. Des conseils que je n'ai pas écoutés des fois. Et puis, c'est une bénédiction de pouvoir avoir nos parents. Quand on est jeune, des fois on dit, c'est dur ce que tu me dis. Mais quand on vieillit avec le recul, on dit, waouh, j'aurais dû faire ça et je n'ai pas écouté. Mais nos parents, mon père, il reste toujours mon père. Puis il est toujours là. C'est comme notre père qui nous a laissé sa parole. Avec mon père, je ne pouvais pas fermer et dire, oh, arrête de parler, là, parce qu'il était là. Mais avec la parole, des fois, on peut fermer et dire, bon, je ne veux pas la lire. Mais c'est tellement important, la parole de Dieu, pour nos vies, parce qu'elle nous change. Amen? Elle nous change. Puis, c'est une bénédiction de pouvoir vraiment commencer cette étude. On a déjà commencé depuis 2 dimanches l'étude de l'Épître aux Hébreux. Et on a entendu dimanche passé les versets de 1 à 3, tellement riches en enseignements. Et je vous invite déjà à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1. Et veuillez ouvrir vos Bibles, chapitre 1. Et si vous voyez rapidement le verset 1 à 3, il y a tellement d'enseignements. Il y a 7 choses que j'ai pu voir, puis j'ai pu entendre avec aussi Richard qui a prêché la semaine passée. Dieu a parlé par le Fils supérieur au prophète. Il a établi l'héritier de toutes choses. À qui ça? À son Fils. C'est par lui qui a fait tout le monde. Il est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Qui ça encore? Le Fils. Il a accompli la purification des péchés. Il est aussi assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Cette vérité, tellement grande vérité pour nous, les chrétiens, il a accompli la purification des péchés. On a entendu des témoignages, puis on a vu la grâce de Dieu dans ces 3 témoignages qui est venu sauver Jésus-Christ par la grâce. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau, c'est un don de Dieu. Si vous n'avez pas l'assurance de ce cadeau, de la vie éternelle, s'il vous plaît, ne partez pas sans venir, demandez à un chrétien, et aussi écoutez la parole, écoutez ce message. C'est lui seul qui peut nous sauver. C'est lui le sauveur du monde, Jésus-Christ. Il est mort pour nos péchés. C'est ça l'évangile. C'est ça le message de l'évangile, donc. Si on retourne à notre étude de l'Épître aux Hébreux, rappelez-vous que l'Épître semble être écrit de toute évidence à des Hébreux, c'est-à-dire à des Juifs devenus chrétiens, des croyants juifs en fait. L'auteur parle des gens qui avaient une bonne connaissance de l'Ancien Testament. Les Juifs avaient une bonne connaissance de l'Ancien Testament, de la loi mosaïque. Il connaissait vraiment les prophètes, les psaumes. Il connaissait bien ça. L'auteur de l'Épître cherche à exhorter, à encourager dans le but d'amener les chrétiens juifs, encore des enfants dans leur foi, à la maturité. Il essaie de faire ça à la maturité spirituelle et les mettre en garde des dangers comme le relâchement, comme la tiédeur, l'incrédulité, le retour au judaïsme, ayant grandi dans les préceptes de la loi mosaïque. Surtout ça, le retour au judaïsme. Lutter contre l'ignorance aussi de la personne de Jésus-Christ. L'ignorance de la personne de Jésus-Christ, car la connaissance du Fils de Dieu est une puissance dans la vie de nous comme croyants. Amen. La connaissance du Fils, c'est d'une grande puissance dans nos vies. Ils ignoraient beaucoup de choses, ces juifs chrétiens. Nous avons fini la semaine passée dans le verset 4 qui introduit vraiment ces versets-là qu'on va jusqu'à la fin, on va lire jusqu'à la fin du chapitre 1. Mais le verset 4 finit de cette manière devenu autant, d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent de leur, du leur. Pardon. Qu'est-ce que c'est ce nom? Du nom bien différent de leur. Jésus-Christ a toujours existé, mes frères et sœurs, mais il est devenu supérieur aux anges dans son exaltation. Ce qui implique une certaine, à une certaine époque, il était créé, il a été inférieur, pardon, il n'a pas été créé, il a été inférieur aux anges, qui on peut voir hein, dans Hébreu, il a été inférieur aux anges, mais c'était quelque chose de volontaire de la part de Jésus-Christ. Il s'est fait homme, comme dit Philippiens 2. D'ailleurs, Philippiens 2, 8 à 11 dit, « En devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, vous voyez, on a parlé tantôt, supérieur aux anges, tout genou fléchisse dans les cieux. Où sont les anges? Dans les cieux, sous la terre, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur pour cette vérité, Seigneur. Merci pour l'Épître aux Hébreux, Seigneur, pour ta parole en fait, Seigneur, qui nous aide. Tu nous l'as laissé pour te connaître, Seigneur, toi, notre Dieu, notre Sauveur, Seigneur. Permets qu'on puisse, Seigneur, pas juste l'écouter ou la prendre par cœur, sinon la mettre en pratique aussi, Seigneur, qu'on puisse vivre selon ce que tu nous demandes à vivre, Seigneur, être des lumières ici dans ce monde, Seigneur, à vivre pour toi et fixer nos yeux sur toi, Seigneur. C'est toi la seule source de vie, Seigneur, comme on l'a chanté. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Donc, aujourd'hui, on va parler des anges. J'aurais voulu être vêtu en blanc, mais je n'ai pas de veston, j'ai juste la chemise. Peut-être une prochaine fois. Ce que sont les anges et ce qu'ils font les anges aussi. Avant de parler des anges, nous, c'est-à-dire l'être humain, est une créature merveilleuse. Amen. Oui, David le dit dans les psaumes. Et étonnant, certainement est supérieur à des plantes, à des animaux, même aux animaux très complexes. L'homme est supérieur à ça, mais il est supérieur même à toute créature matérielle, mais il y a des créatures supérieures à l'être humain. C'est qui? Les anges. Dans Hébreux 2, 9, on vient de lire, il a écrit que quand Jésus s'est fait homme, il a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Donc, les hommes, on est au-dessus des anges. Les anges sont plus puissants que les hommes. 2 Pierre 2, 11 dit « supérieurs en force et en puissance ». Les anges sont supérieurs à nous. Oui, supérieurs, mais nous avons un avantage. Les anges adorent Dieu. Jour et nuit, nous aussi, on peut l'adorer. Mais les anges ne pourront jamais chanter « Tu es mon sauveur ». Nous, on peut chanter « Tu es mon sauveur ». Il y a dans la Bible 108 références directes aux anges dans l'Ancien Testament et 165 dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup des références directes aux anges. Hein? 108 dans l'Ancien Testament et 185 dans le Nouveau Testament. On va pas passer par tous ces références-là, mais on va quand même regarder quelques points. C'est-à-dire, premièrement, leur nature, leur rôle. Et leur rôle des anges, la nature. Tout d'abord, ange signifie, soit en hébreu, soit en grec, le même mot, c'est la même, signifie la même chose, c'est messager ou envoyé. C'est ça un ange. Ils sont d'abord, tous étaient créés pour rendre un culte au service particulier à Dieu. Les anges sont des esprits, on peut le voir dans Hébreu 1 aussi, 14, on va le lire tantôt. Cependant, ils ont un corps. Quelquefois, ils ont pris des corps quand même assez particuliers. Dans Matthieu 28, on peut lire, son aspect était comme l'éclair. Vous voyez, quand les anges, quand les soldats ont vu les anges, là, et quand ils étaient au tombeau, le tombeau s'est ouvert, il dit, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige, et les gardes tombèrent de peur et devinrent comme morts. Cet ange avait revêtu une gloire éclatante et aveuglante. Les anges sont très intelligents. ils ont aussi des émotions. Vous savez, ils se réjouissent quand un sauveur se répand. Il dit qu'il y a une quoi? Une fête. Luc 15, 10 dit qu'il y a une fête quand les anges, quand un pécheur se répand. Les anges peuvent parler aux hommes, comme on le voit maintes reprises dans l'Écriture. C'est vrai? Les anges peuvent parler aux hommes. Les anges ne se marient pas. Ils ne peuvent pas se reproduire. Jésus même le dit dans Matthieu 22, 28 à 30. Selon Colossiens 1, 16 à 17, il semble qu'ils auraient tous été créés simultanément. La Bible ne fait aucune mention des anges qui s'est réajouté. Dieu les a tous créés en même temps, chacun avec une identité propre. L'Écriture n'indique nulle part non plus qu'ils meurent, qu'ils peuvent mourir. Chaque ange est une création directe et permanente de Dieu. Leur nombre s'élève manifestement à plusieurs billions. Dans la vision que Daniel a eue dans Daniel 7, 10, il s'exprime des anges de cette façon. Il avait vu des milliers, mille milliers, et qui les servaient, il dit, et 10 000 millions qui s'étaient nés en sa présence. Dans la vision, dans sa vision, Jean, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 5, au verset 11 aussi, Jean parle également qu'une grande multitude céleste, leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers et des milliers. Il y a beaucoup d'anges. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils ont servi Christ. Vous vous rappelez quand il finit la tentation au désert, là, ils sont venus servir Christ. Donc les anges sont puissants. Ils sont organisés quand même. Il y a des rangs parmi les anges. Parmi les classes particulières des anges, on compte les chérubins, les séraphins, les archanges. Les archanges, ça veut dire ange principal. Le nom de certains, vous connaissez très bien. L'ange quoi? Gabriel. L'ange quoi aussi? Michel ou Miguel en espagnol. Michael, pardon. Il y a quand même une particularité dans la parole, l'ange de l'Éternel. Tout ange que Dieu envoie pour exécuter des ordres pourrait être appelé ange du Seigneur, mais l'ange de l'Éternel fait référence vraiment à sa personne. Puis il y a des anges déchus aussi. Les anges déchus, c'est qui? Satan et les anges déchus qui ont péché et qui vont être, il y a un endroit préparé pour eux. Dans Apocalypse 20, 10, on parle, dans Matthieu 25, 41 aussi. Mais concernant le diable, avant la chute, dans Hébreu, son nom est Lucifer, qui veut dire astre brillant. Mais après sa chute, c'est le diable, c'est en grec, en fait, diable, qui ça veut dire calomniateur. Il porte bien son nom, hein. Et Satan, dans l'hébreu, qui veut dire adversaire. Les anges maintenant. Les anges, j'ai un peu parlé des anges, parce que la Bible en parle, mais les anges dans notre société. Dans notre société, quand vous parlez à quelqu'un, est-ce que vous croyez aux anges? Savez-vous, je pense que vous connaissez très bien j'étais en train de me renseigner, voir. J'étais aussi des fois à un moment donné, j'étais en train de chercher des littérature dans Renaud Bray, où là, on vend des livres beaucoup, c'est reconnu ici au Québec. Puis je suis allé dans les choses spirituelles, il y a beaucoup de livres qui parlent des anges. Les gens s'intéressent beaucoup. Richard a parlé dimanche passé. Mais il y a une émission de radio très connue ici, 98.5, pour tous ceux qui sont plates, qui écoutent des nouvelles. Et 98.5, le matin, vous écoutez la météo puis la circulation. Mais il y a une chroniqueuse qui s'appelle Isabelle Maréchal, un peu controversée des fois, mais en décembre, pour l'époque de Noël, en 2013, elle a fait... Elle commence comme ça, la phrase de son émission. « Au moins 60% des Québécois croient aux anges, un ange personnel qui les protège et les guide. Et vous, croyez-vous? » Et pac, tout le monde commence à prendre les lignes, elle a des invités, puis tout le monde... parle des anges. Elle dit, non, je suis dans les 40% que je ne crois pas aux anges. Là. Mais 60% des Québécois croient aux anges. Puis à un moment donné, ils ont tenté de parler, puis ils disent, bon, je crois aux anges, mais je ne crois pas à Dieu. Mais Isabelle, elle dit, mais attendez, là, il me semble que Dieu est lié aux anges. Hein? Je ne sais pas, c'est bizarre ce que vous croyez. Donc, il croit, et ce qu'il croit aux anges, il dit, il croit comme une force qui a créé les anges. Dieu est une force qui est juste, qu'il a créé les anges. Ils disent aussi qu'on peut demander l'aide aux anges. Il y en a des gens qui écrivent aux anges. C'est bizarre. Où écrit? Où est, c'est quoi l'adresse? Ils les appellent les êtres de lumière. OK? Plusieurs gens parlaient au téléphone. J'étais en train d'écouter l'autre jour juste pour... Ils parlaient au téléphone et puis ils disaient n'importe quoi par rapport aux anges. Est-ce qu'ils croient aux bons anges? Parce que vous voyez dans 2 Corinthiens 11, 14, il dit « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan... » lui-même se déguise comme un ange, quoi? Un ange de lumière. Puisqu'il croit aux bons anges. Donc, mais c'est quand même curieux de savoir que 60% des Québécois croient aux anges. On va voir maintenant ce que le juif, c'est que ces chrétiens juifs pensaient des anges. Tout d'abord, les anges, que les juifs tenaient en grande estime. Ils vénéraient les anges, ils révéraient les anges, puisqu'ils avaient eu part dans la promulgation de la loi. On peut voir ça dans Deutéronome 33, chapitre 33, verset 2, dans Psaume aussi, 68, 17, dans Actes, dans Galates. Mais ça vaut la peine d'aller voir dans Deutéronome 33, 1 à 2. Je vais juste les lire. Et ça, c'est avant que Moïse meure, avant de mourir. Il bénit le peuple d'Israël. Il dit, « Avant de mourir, Moïse, l'homme de Dieu, prononça sur les Israélites la bénédiction que voici. Le Seigneur est venu du mont Sinaï comme le soleil. Il s'est levé du pays de Séir, des monts des Paran. Il a éclairé son peuple. Il est venu vers les siens, accompagné des milliers d'anges, en tenant dans sa main la loi flamboyante. » Ça, c'est, je suis en train de lire, par exemple, dans la version français courant. Accompagné des milliers des anges. La plupart des Juifs croyaient que les anges étaient très importants. Okay? Ils croyaient très importants pour l'ancienne alliance. Ils estimaient des créatures étant les êtres les plus élevés après Dieu. Ça, c'est ça qu'ils croyaient les Juifs à l'époque. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit pour renverser ces fausses idées que ces chrétiens avaient. Répandu parmi ces chrétiens-là. Ça me fait penser quand l'apôtre Paul écrit pour renverser des forteresses. Il écrit pour renverser des forteresses. Et justement, l'apôtre Paul écrit dans Colossiens en rapport à des pratiques à l'époque des fausses doctrines concernant les anges. Dans Colossiens 2, 18, je vais le lire aussi dans la version français courant. Ces gens, il parle de ces gens-là, je vais parler tantôt de quoi il parle, ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et de s'adonner à un culte des anges. Il y avait supposément un culte des anges à l'époque. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce culte aux anges? Il paraît qu'il demandait à Dieu, demandait à Dieu des choses. Donc, les anges étaient comme intermédiaires entre Dieu et le juif, et le peuple. Donc, ils croyaient à cela. C'est le culte aux anges. Un peu comme la prière catholique aux anges. J'étais en train de parler aujourd'hui de cette prière-là. Quand j'étais en train d'étudier, je me suis rappelé, là, parce que je viens d'arrière-plan catholique. Puis quand j'étais petit, je ne sais pas si vous l'avez appris, je ne sais pas, c'est peut-être dans mon pays, c'est juste dans mon pays. Mais il y avait une prière pour l'ange gardien. Il fallait prier l'ange gardien, vraiment. Puis il fallait l'apprendre par cœur pour la catéchèse. Donc j'ai tout appris par cœur. Là. J'ai oublié déjà, mais j'ai tout appris par cœur. Puis je l'ai trouvé sur Internet, je l'ai traduit en version français. Ange gardien, compagnon doux, ne me laisse pas ni la nuit ni le jour. C'était un peu en poème, c'était prière. Les heures passent, les heures de la journée. Si vous êtes avec moi, je suis dans la joie. Ne me laisse pas seul. Sois tout au long mon guide, ange de lumière. Encore ange de lumière, vous vous rappelez le verset de 2 Corinthiens? Compagnon doux. Prière aux anges. Donc, en plus d'avoir cette attitude de vénérer les anges, ces chrétiens à qui l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit, en plus de vénérer tellement les anges à l'extrême, ces chrétiens juifs étaient aussi exposés à ce genre de pratiques, les cultes aux anges. Et c'est pour ça d'ailleurs que Paul écrit aux Colossiens. Mais mes frères et sœurs, regardons de plus près notre passage. cette merveilleuse section des Hébreux, du chapitre 1, du verset 5. On va lire du verset 5 au verset 13. On va laisser le dernier verset 14 pour la fin, comme conclusion, mais du verset 5 au verset 13. Puis lisons dans nos Bibles, s'il vous plaît. Auquel des anges, en effet, verset 5, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, moi, je serai pour lui un père. Et lui sera pour moi un fils. Et quand de nouveau il introduit le premier né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et il dit des anges, il fait des anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Mais au fils, il dit, ton trône, ô Dieu éternel. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint avec une huile d'allégresse, des préférences à tes compagnons. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi tu demeures. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés comme un vêtement. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront pas. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ces chrétiens-là, des Hébreux, ils ont été bombardés vraiment par rapport à leur croyance des anges. Vous êtes d'accord avec moi? Du verset 5 au verset 13, « Tu es mon fils. » À qui, quel des anges Dieu a jamais dit « Tu es mon fils » Mais je me reste à voir dans ces 9 versets, 5 choses, 5 caractéristiques et 5 raisons pourquoi Jésus est supérieur aux anges. 5, à cause de son titre, ou son nom, à cause de l'adoration qui lui est due, à cause de sa nature, la nature de Jésus-Christ, à cause de son existence et à cause de sa destinée. Regardons dans le premier, à cause de son titre. En fait, il fait référence au psaume 2:7 et à 2 Samuel aussi 7:14. Et il dit, tu es mon fils. Jésus-Christ est supérieur aux anges tout d'abord parce qu'il a un titre supérieur, un nom plus excellent. On a lu dans les Philippiens tantôt. À quel ange Dieu avait appelé « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Aucun. Dieu n'avait dit aucun ange non plus « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Les anges étaient toujours des ministres, des messagers. Seul Christ est le Fils. Les anges sont juste des serviteurs créés par lui-même. Lorsque le titre « Fils de Dieu » s'applique en Christ dans l'Écriture, il désigne toujours l'essence de sa divinité et son égalité absolue avec Dieu. Et les chefs, les Juifs, comprenaient bien cela à l'époque. Ils comprenaient bien quand on attribuait le titre « Fils de Dieu » à Jésus, il s'appliquait plutôt à Christ. Dans cette culture, le fils adulte était considéré égal à son père dans la culture, était égal, pareil à son père, un privilège. On accordait la même déférence au fils adulte d'un roi que celle qui était due au roi. Donc c'était le même. Le fils et le père étaient la même personne en question des droits ou de supériorité. D'ailleurs, c'est à cause de ça que Jésus a été accusé. Il voulait même le tuer. Dans Jean 5, 18, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'ils voulaient violer le sabbat, mais parce qu'ils disaient qu'il était Dieu. Ils disaient que Dieu était son propre père. Okay? Ils voulaient le tuer à cause qu'ils disaient que Dieu était son propre père, se faisant ainsi lui-même quoi? Égal à Dieu. À cause qu'il était le fils, il était appelé le fils. Et le juif de ce temps connaissait bien cela. Dans son titre, à cause de son titre, il est supérieur aux anges. l'adoration qui lui est due. Dans le verset 6, on peut lire, « Et quand de nouveau introduit le premier né dans le monde, il dit que tous les anges l'adorent. » Jésus n'est pas seulement supérieur aux anges parce qu'il est le Fils de Dieu, mais aussi parce qu'on doit l'adorer. C'est un ordre. Et en fait, l'auteur de l'Épître, il cite le psaume 97, 7. Il prédit que tous les anges adorent à ce Christ, au Christ Dieu. Donc, les Juifs n'avaient aucun doute que ces paroles venaient de la loi, des psaumes. Et donc, il était digne d'adoration, et même l'adoration des anges. Il y a tellement de controverses au niveau de l'expression « premier-né », qui n'a rien à voir avec le temps. Il désigne plutôt une position. Ce n'est pas une description, même au titre, mais c'est juste un titre qui ça veut dire « chef », le premier-né. Le concept était associé au premier-né que le fils aîné était habituellement l'héritier de tous les biens du père. Ça, c'est la coutume. Le premier fils à naître n'était pas toujours le premier-né. On peut le voir dans Ésaü. Vous vous rappelez qu'on a vu dans la Genèse, Ésaü, par exemple, était le plus âgé, mais Jacob était le premier-né à cause qu'il avait vendu son droit d'aînesse. Il était appelé le premier-né. On trouve une bonne description aussi dans Genèse 49, quand il bénit ses enfants, il dit de Ruben, « Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité. » Vous voyez, supérieur en dignité et en puissance. Jésus est le premier-né par excellence, le suprême fils, ayant par-dessus tout le droit de diriger. Et à cause de cette raison, est supérieur aux anges. Il est supérieur aux anges aussi, troisièmement, à cause de sa nature. Et dit des anges. Voilà le témoignage. Et il dit des anges. Il fait de ses anges, le verset 7, des vents et des serviteurs une flamme de feu. Jésus est également supérieur aux anges à cause de sa nature. Étant donné que Christ, dans Colossiens 1, 16, il a tout créé. Il les a créés aussi, les anges. Non seulement il a été créé par lui, mais il lui appartient. Ce sont des anges, ces créatures, ces serviteurs. Ils servaient Jésus, vous vous rappelez, les anges, après le baptême. Quand Pierre coupait l'oreille là, à cet homme-là, oui, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Tu ne crois pas que je pourrais demander à mon Père que les anges viennent, une légion d'anges, puis viennent me défendre? À cause de sa nature. Mais quelle est cette nature de ce fils? Et le verset 8, c'est vraiment un verset que juste en le lisant, on peut se rendre compte vraiment de qui est Jésus. Mais au fils, il dit, qui dit ça? Dieu même. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Il cite le psaume 45. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Il parle au Fils. Écoutez, quand je suis venu au Seigneur, je me suis converti l'année 90, quand je lis ce verset-là, ça ne rentrait pas dans ma tête. Là, je dis, je ne comprends pas là. Dieu parle de son Fils en lui disant, Dieu même, et c'est Dieu même. Il dit de son Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Nous avons ici des affirmations la plus importante, la plus étonnante de toute l'Écriture. Jésus est le Dieu éternel. Jésus n'est pas moins que Dieu. Le Père dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Dieu est le Père. Le Père reconnaît Dieu le Fils. Dieu le Père reconnaît Dieu le Fils. On peut voir aussi d'autres versets, d'autres... Les Écritures aussi, mais surtout celui-là, c'est parce que c'est le Père qui dit, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » On peut voir dans Jean 1 aussi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole, verset 14, est faite chair. On peut voir dans Romains 9, 5 aussi. Et on peut voir dans Tite aussi, que Jésus est vraiment Dieu. À cause de sa nature, il est supérieur aux anges. Et plus loin dans le verset 9, tu aimais la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, encore une fois, ô Dieu, ton Dieu t'a oint avec une huile d'allégresse. Loin de l'Éternel. Le titre suprême de Jésus, le Messie, l'envoyé. Et c'est là, ces Juifs, ces chrétiens, ils comprenaient très bien celle-là, qui était attribuée au Fils. Donc, il est supérieur aux anges à cause de sa nature. Quatrième point, son existence. Il est supérieur à cause de son existence. Du verset 11 à 12, il dit, « Et toi, Seigneur, au commencement, tu as fondé la terre. » Il parle au Fils et les cieux, son ouvrage est aimé, on l'a chanté tantôt. « Ils périront, mais toi, tu demeures. Toi, tu demeures. Ils vieilliront comme tous comme un vêtement. Et plus loin, mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. » Ça, c'est du verset 11 à 12. Il est supérieur aux anges à cause de son existence. C'est encore une référence au psaume 102. Jésus était là au commencement pour tout créer. Cela veut dire qu'il existait avant le commencement. Donc, lui, il n'y a pas de commencement. Comme on vient de citer, au commencement était la parole. Quand Jean 3,16, il dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. » Le Fils existait déjà pour l'éternité. Et 2 Pierre 3,10, il dit, « Les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres que l'enferme sera consumée. » Un jour, Jésus fera disparaître les cieux et la terre. Et dans Apocalypse aussi, dans Apocalypse, chapitre 6, verset 14, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, un peu la même expression d'ici. Et toutes les montagnes et toutes les îles furent remuées de leur place. La création changera, mais non le Créateur. Amen. Des années ne fuiront point, dit. Il est immuable, il ne change jamais. D'ailleurs, ce même auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 13, verset 8, il dit, c'est un verset que vous connaissez très bien, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Donc, il est supérieur aux anges à cause de son existence. Supérieur aux anges aussi à cause de sa destinée. Auquel des anges, verset 13, a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Vous savez, ça me fait penser quand Jésus était devant les sacrificateurs. Et à cause de ces mots-là, on l'a frappé. On lui a dit, « Tu blasphèmes !» Dans Matthieu 26, 63, 64, Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » De même, le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. Et de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance des dieux. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et en disant, « Il a blasphémé. » Nous avons encore besoin de témoins, il dit. Il a blasphémé. Voici ce seul chapitre, le chapitre 1, aux Hébreux. Encore une citation de l'Ancien Testament, le psaume 110:1, qui porte au coin culminant vraiment de l'enseignement sur la supériorité totale de Christ par rapport aux anges. La destinée de Jésus-Christ consiste à régner sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre dans l'Apocalypse 19, le chapitre 19. Allons dans le verset 14, s'il vous plaît. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? La destinée de Jésus, c'est de régner. La destinée des anges, c'est de servir toujours à ceux qui vont hériter le salut. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux que les anges être au service de ceux qui vont hériter le salut? Il dit ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc Jésus est supérieur aux anges à cause de son titre, à cause de l'adoration qui lui est due, à cause de sa nature, son existence et sa destinée. L'auteur de l'Épître finit ce chapitre 1 par ce verset 14. Ils sont tous au service de Dieu. Et en plus, au service de ceux qui vont hériter le salut. Des fois, on m'a demandé, est-ce que j'ai un ange à côté de moi? Combien d'anges est-ce que tu as à côté de toi? Est-ce que tu as quatre anges? Est-ce que tu as un ange qui te suit tout le temps? Je ne peux pas répondre à ça, mais je sais que les anges sont au service de ceux qui ont hérité le salut. Il y a un verset de la Bible, une partie de la Bible que j'aime beaucoup, dans 2 Rois 6, 15 à 17. Il dit, au moment donné, Élisée et son serviteur, qui étaient menacés par le roi des Syrie, et n'avaient aucun moyen de se défendre, le serviteur de l'homme de Dieu se leva, de bon matin est sorti, et voici une troupe entourée la ville, dit, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Oh, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Attends là, mais je vois des chars partout là, comment tu dis ça? Et Élisée pria à Dieu et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux, de chars, de feux autour d'Élisée. Waouh! Mais il fallait que Dieu ouvre ses yeux pour qu'il voie. Quand on va me demander, est-ce que j'ai un ange à côté de moi? Peut-être tu as des milliers d'anges à côté de toi. Je ne sais pas, ça dépend de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut faire pour toi? Des anges, c'est juste des messagers, des serviteurs de Dieu. Ainsi donc, le Fils est supérieur aux anges, dans tous les points de vue. Là. On a vu dans Hébreux, là, dans le verset 5, sept référence à l'Ancien Testament. Cette référence au psaume, psaume 2, 7, 2 Samuel 7, 14, verset 6, psaume 97, 7, et verset 7, le psaume 104, et de 5 à 9, le psaume 45. Pour un latino, c'est dur de prononcer psaume. Hein? Hébreux 1, 10 à 12, le psaume 102, 13, 14, 110, le psaume 110, 1. Je pense que, comme je dis tantôt, là, ces juifs-là, ces chrétiens juifs, je pense que ça a été un gros enseignement de la part de Dieu en lisant cette lettre. C'est sûr que les trois premiers versets, il disait, c'est lui le Fils, c'est lui le Créateur. Mais là, il voulait comme, oui, c'est ça, je crois bien, là, mais où? Dans la parole, c'est écrit ça. Puis là, il commence du verset 5 au verset 14. Nous avons, mes frères et sœurs, besoin de la parole de Dieu pour corriger des fausses enseignements ou traditions que nous pourrions avoir. Et nous concentrer surtout, comme l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 3, 17 à 18, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos garde des peurs qui entraînaient par l'égarement des impies. Vous ne veniez pas à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de quoi? De notre Sauveur, de Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Croissez dans la grâce et la connaissance. Paul, il dit, je veux le connaître, parce que mon désir, c'est de le connaître. Plus loin encore, l'Épître aux Hébreux, il dit dans le chapitre 13, verset 9, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. » Récemment, hier, j'ai vu afficher un témoignage d'un frère très bien aimé. Puis il avait affiché là, sur sa page Facebook, il disait, pour ses 60 ans de vie chrétienne. Waouh, 60 ans de vie chrétienne. Et ce que j'aimais beaucoup plus, c'est ce qu'il a écrit au-dessus, avec en anglais et en français. Personne n'est plus important pour moi que Jésus. Personne n'est plus important que moi que Jésus. 60 ans de vie chrétienne. À un moment donné, j'ai dit, il est né chrétien. Il n'est pas né chrétien. Mais 60 ans, j'aimerais fêter mes 50 ans de vie chrétienne. J'ai déjà 25 ans plus, là, je vais être pas mal vieux. Donc, c'est mieux que fêter mes 25 ans tout de suite. 60 ans de vie chrétienne. J'étais il y a quelques années avec la famille dans un parc d'amusement. Puis il y avait un jeu, un manège, là, en fait, là, okay, qui disait Mars, venez expérimenter. Qu'est-ce que c'est être sur Mars? C'était une navette spatiale que tu m'as monté, puis on avait la sensation de la gravité et tout ça. Là. C'était, et mon fils, Daniel, il m'a dit, on y va. Moi, quelqu'un qui me connaît, j'ai la misère. Moi, j'ai mal au cœur n'importe où. Là. Dans la voiture, il faut que je m'assoie en avant, sinon j'ai mal au cœur. Si je suis copilote, il faut que je sois en avant. Sinon, je ne peux pas aller en arrière. Donc, si jamais vous venez d'un lift, là, assoyez-moi en avant, là, parce que ça peut être désastreux. Mais... Donc, il me dit, « Papa, viens avec moi, montons dans ces manèges-là. » J'ai dit, « Non, je doutais, là. » Mais, tu savais, les adolescents sont très perspicaces pour convaincre. Peut-être qu'il a touché mon orgueil, mais j'ai dit, « OK, je vais aller. » Et donc, je suis allé, j'ai dit, « Bon, je vais essayer ça. » Mais j'avais peur, donc. Et donc, je me suis assis, puis là, c'est écrit, « Il faut regarder l'écran. » Puis là, lui, là, il dévoile le punch parce qu'il me dit, « Papa, c'est parce que ça tourne. » Oh là là, ça tourne. Et j'étais déjà là, si, je peux pas sortir. Et donc, oh là là, tout ce qui tourne, moi, c'est mortel. Donc, je suis monté et j'ai dit, « Waouh !» Et c'est marqué, « Concentrez-vous juste à l'écran. » Donc, je dis, « Je vais me concentrer à l'écran. » Et là, ça a commencé, là. C'était bien, là. On sentait vraiment, là, c'était bien, là. Les premières secondes, là, c'était bien. Mais j'étais concentré vraiment, là. Mes yeux, là, étaient concentrés à l'écran. Puis là, ça spinait. On dit un beau Québécois, là. Ça tournait, là, OK? Mais je voulais pas regarder à côté, OK? Mais à un moment donné, là, je savais le péché, hein. Donc, à un moment donné, je regarde, puis là, ouf! J'ai resté concentré, puis l'autre, on dirait que les deux yeux s'en allaient vers là. Puis là, j'ai dit, non, je vais me concentrer là, je vais vraiment me concentrer. Je fermais les yeux, je ne pouvais pas les yeux fermés, donc il fallait que j'ouvre les yeux. Oh. Puis là, les 14 secondes ont été très pénibles. Quand c'est fini, le jeu, j'avais la pesanteur, j'avais la sueur froide, vous connaissez très bien ça. Puis là, j'ai presque tombé quand je suis sorti du manège, j'ai dit, plus jamais tu ne me feras jamais faire ça. Tu ne m'aurais jamais faire ça. Pourquoi j'ai tombé? Parce que je n'étais pas fixé vraiment à ce que je devais regarder. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi. Hébreux 12, 11 à 2. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi. On peut tomber, mes frères et sœurs, parce qu'on détourne le regard de Jésus, de notre Sauveur. On pense à d'autres choses, plus importantes peut-être. Vous rajoutez des choses à notre vie chrétienne. Je ne sais pas, notre travail, nos études même, ça peut être. Parce qu'on détourne le regard. On regarde même les hommes. On va voir que ces Juifs-là, ils regardaient Moïse, ils regardaient... Et les coutumes, les traditions, c'est des choses qui nous empêchent à regarder vraiment droit à notre Créateur. C'est pour ça que j'ai aimé beaucoup. Personne n'est plus important pour moi que Jésus. Vous savez, on a commencé avec le verset 4 du chapitre 1, parce que ça introduit ce qui parle des anges. Mais maintenant, je vais utiliser le chapitre 2, le verset 1, pour finir avec ça. Parce que le chapitre 2, et finissons par là, chapitre 2, verset 1 dit, vous avez tous vos Bibles? C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu. Qu'est-ce que nous avons entendu? Tout ce que nous venons de lire au chapitre 1. Tout ça découle, la loi et tout ça découle de ça. Du fait du Fils de Dieu, Dieu-même. C'est pourquoi nous devons prêter de plus vite et plus vive attention à ce que nous avons entendu. Des peurs, quoi? D'aller à la dérive, de tomber. Fixer sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Amen.